Radio Okapi.
La République démocratique du Congo vient d'enregistrer son premier malade guéri du virus d'Ebola. Ce malade était interné à l'hôpital général de référence de Rwampara, à la périphérie de Bunia. Des acteurs sociopolitiques et de la société civile saluent cette annonce qui, selon eux, constitue un réel espoir pour l'enrayement de cette épidémie. Organisation des élections en RDC, la CENI était face aux députés ce mercredi à l'Assemblée nationale. Devant les élus, son président Denis Kadima a présenté le rapport annuel 2025-2026 de l'institution, déclaré recevable par la plénière. Comme invité, nous recevons Bienfait Fazili, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile en chefferie de Wamuzimu au sud Kivu. Il revient sur les réactions contrastées au sein de communautés locales après l'arrêté du ministre des Mines suspendant pour 3 mois les activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. À Ituri, l'Institut national de santé publique a annoncé mercredi soir le premier cas guéri de la maladie à virus d'Ebola. Il s'agit d'un patient qui était interné à l'hôpital général de référence de Rwampara à la périphérie de Bunia. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le responsable adjoint de cette institution publique indique que cette guérison représente un signal encourageant dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Un extrait de cette déclaration choisie par Martial Kizabiamungo.
Nous confirmons à l'ensemble de la population congolaise et mondiale que ce jour, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guérie de ce virus. Dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. L'INSP, à travers le COUSP, a déployé des experts qui travaillent sur le terrain et qui sont en train de remettre les choses en ordre et qui inversent aujourd'hui la tendance. Au lieu de parler de décès, nous allons commencer à parler de guéris. Nous avons soigné à la zone de santé de Rwampara avec l'appui de notre partenaire Alima.
Des acteurs sociopolitiques et de la société civile saluent cette annonce qui, selon eux, constitue un réel espoir pour l'enrayement de cette épidémie. Ils souhaitent cependant que le même protocole des médicaments utilisés pour la guérison de ces premiers cas soit également administré aux centaines d'autres malades d'Ebola pour sauver des vies humaines. La vigilance est renforcée au nord Kivu face à la menace d'Ebola. Après les villes de Butembo et Goma, les zones de santé d'Oicha et de Kalunguta dans les territoires de Beni ont enregistré cette semaine leur premier cas positif de la maladie à virus Ebola selon les autorités sanitaires. Face à cette situation, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, a annoncé ce mercredi à Beni devant la presse une série de mesures strictes destinées à freiner la propagation de l'épidémie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
Il est strictement interdit de circuler avec un corps sans vie, sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil. Il en est de même des motards. N'est autorisé que le transport d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle, le débarquement de tous les passagers à bord de l'engin roulant est obligatoire pour le lavage des mains et le prélèvement des températures devant l'entrée de chaque bureau, boutique, alimentation, magasin, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot. Un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant le contact avec les personnes. Les rencontres sportives sont momentanément suspendues. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques.
Nord-Kivu toujours, la situation épidémiologique liée à Ebola reste sous surveillance. Au total, 362 cas contacts et 4 cas confirmés sont suivis depuis une dizaine de jours par le comité médical des ripostes basé à Goma. Ce bilan a été présenté mercredi à la délégation de l'Organisation mondiale de la santé en mission officielle dans la ville. Il couvre à la fois les villes de Goma et de Bukavu. Sur les 4 cas confirmé à ce jour, un seul est enregistré à Goma, tandis que 3 autres proviennent de Bukavu. Bernadette Nyangi pour le point.
Dans les détails, la coordination de la riposte Ebola Goma-Bukavu précise que sur les 362 cas contacts, 255 sont suivis à Goma contre 107 au sud Kivu. Concernant l'évolution des cas à Goma, l'unique patient confirmé est actuellement pris en charge dans un centre de traitement Ebola avec une évolution jugée encourageante. Un cas probable y est également suivi par les équipes médicales. À Bukavu, la situation montre une progression. Le nombre de cas confirmés est passé d'un à trois durant cette semaine. Par ailleurs, 62 échantillons ont déjà été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale pour analyse. Ces prélèvements proviennent notamment de Bukavu et de cette zone de santé autour de Goma, dont seuls les 4 tests se sont révélés positifs à ce jour. S'agissant des cas contacts placés en quarantaine à Goma, leur situation évolue également. 38 personnes sont actuellement au 12e jour de suivi, tandis que 217 autres ont atteint le 21 jour. Selon la division provinciale de la santé, ces derniers pourraient être libérés dès ce jeudi, à condition de ne présenter aucun signe de la maladie.
À Kananga, au Kasaï central, de nombreux ménages recourent à l'automédication pour faire face aux problèmes de santé du quotidien. Cette pratique, qui consiste à utiliser des médicaments sans avis médical, suscite l'inquiétude des professionnels de santé. Ces derniers mettent en garde contre les risques qu'elles comportent et invitent la population à consulter un médecin dès l'apparition des symptômes afin de bénéficier d'un traitement approprié. Le point avec André Katindinga Lamouloumé.
Dans cette parcelle située sur l'avenue Mouika dans la commune d'Indécha, nous rencontrons Hélène Mujinga, mère de cet enfant. Elle affirme garder en permanence des médicaments à domicile. Selon elle, cela lui permet d'intervenir rapidement lorsqu'un membre de sa famille tombe malade.
Je garde les médicaments dans la maison parce qu'un enfant peut tomber malade, je lui donne. Je sais seulement que quand un enfant a la fièvre, je lui donne un paracétamol. C'est quand la situation devient grave qu'on va consulter le médecin.
À Kananga, plusieurs chefs de ménage s'adonnent également à l'automédication. Ambroise Mukendi, responsable de la section pharmacie à l'Institut d'enseignement médical IM Kananga, explique que l'usage de médicaments sans avis médical peut provoquer des intoxications et favoriser l'apparition d'autres maladies.
Il y a d'abord les mauvais diagnostics. Il peut prendre le médicament qui ont des effets secondaires. Autre danger, surdosage, retard de prise en charge médicale.
Il invite la population à éviter l'automédication et à consulter un médecin en cas de fièvre ou de tout autre problème de santé afin de bénéficier d'un traitement approprié. Tananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Organisation des élections en RDC, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, était face aux députés ce mercredi à l'Assemblée nationale. Devant les élus, son président Denis Kadima a présenté les rapports annuels 2025-2026 de l'institution, déclarés recevables par la plénière. Un exercice marqué par plusieurs préoccupations, manque de financement, difficultés logistiques, insécurité dans l'est du pays, mais aussi nécessité de réformer les systèmes électoraux avant les élections. De 2028. Le document retrace les principales activités menées au cours de l'année 2025 ainsi que les préparatifs déjà engagés en perspective du prochain cycle électoral. Les députés ont insisté sur l'importance de garantir à temps les moyens nécessaires à la CENI pour mieux préparer les prochains scrutins. Le point avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Devant la représentation nationale, le président de la CENI a présenté les principales avancées, mais aussi les défis qui entourent encore le processus électoral en RDC. Denis Kadima a rappelé que la CENI a poursuivi certaines opérations du cycle électoral 2022-2027, notamment l'organisation des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces d'Ikwilu et du Nord-Ubangi. Mais plusieurs scrutins locaux, comme ceux des bourgmestres, maires et conseillers urbains, n'ont pas pu être organisés faute de financement. Le président de la CENI a également insisté sur les difficultés qui compliquent l'organisation des élections en RDC, problèmes logistiques, insécurité persistante dans l'est du pays, vétusté des infrastructures électorales et irrégularité des financements. Le rapport évoque aussi plusieurs réformes envisagées avant les élections de 2028, parmi lesquelles l'élargissement de la participation des Congolais vivant à l'étranger, la prise en compte des déplacés internes, le renforcement des mécanismes biométriques ainsi que les dépôts électroniques des candidatures. La CENI propose également l'utilisation du centre électoral Bosolo pour renforcer la transparence dans la centralisation et la publication des résultats électoraux. Après les échanges, plusieurs députés ont plaidé pour un financement régulier de la CENI afin de garantir des élections crédibles et apaisées en RDC.
À Matadi, la gestion des déchets ménagers demeure un défi majeur pour les habitants. Entre la fréquence irrégulière des collecteurs et l'absence d'espace de charge adapté, les ménages peinent à éliminer correctement leurs déchets. Cette situation alimente les mécontentements de la population qui dénonce l'accumulation d'ordures dans plusieurs quartiers de la ville. Les détails dans ce reportage d'Élise Kavira.
Dans cette ville au relief rocheux, il est presque impossible de creuser des fosses pour enfouir des déchets biodégradables. Pour se débarrasser des immondices, les habitants doivent rester attentifs au passage des collecteurs des déchets qui circulent de manière irrégulière dans les quartiers. Gina Mavungu, mère de famille habitant au quartier Soyo, explique sa difficulté face à ces irrégularités.
Cette situation n'est pas facile. Hein. Des fois l'argent est là, les poubelles sont déjà pleines, mais on peut passer toute une semaine. Les messieurs ne passent pas prendre les déchets. On doit seulement rester dans les odeurs comme ça.
Mais les collecteurs expliquent eux aussi leurs difficultés. Selon eux, le principal problème reste le manque d'un espace approprié pour décharger les déchets à proximité du centre-ville. Le seul site mis à leur disposition par les autorités urbaines se trouve au village d'Ibongo, situé à environ 4 km du centre de Matadi. C'est ce que rapporte l'un d'entre eux, Bobo Samu, collecteur bien connu dans le quartier Soyo.
Le déchet que vous voyez là, moi je ne peux pas aller avec ça jusqu'au dépotoir, c'est loin. Je dois payer les conducteurs du tricycle qui stationnent sur la chaussée plus haut, mais eux aussi ne viennent pas tous les jours. C'est pourquoi il y a des jours où on ne passe pas.
Face à cette situation, de nombreux habitants appellent les autorités locales à renforcer le système de gestion des déchets afin d'améliorer l'assainissement et les conditions de vie dans la ville. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit dans la province de la Tchopo où l'eau potable demeure une denrée rare dans les territoires de Banalia. Aucune source d'eau propre à la consommation n'est disponible. C'est le quotidien difficile des habitants de cette cité située à 128 km au nord de Kisangani. La communauté ne dispose que de deux sources, toutes deux non aménagées. Faute d'alternative, la population s'approvisionne à ses points d'eau ou directement dans la rivière Arouimi au risque de compromettre sa santé. Le point avec Jacques Moukonkole.
Sur place à Banalia, la situation est insupportable pour les familles. Sans alternative, les ménagères sont les premières à constater les dégâts au quotidien. Écoutons ce témoignage poignant de l'une d'elles.
Vois comment l'eau est sale. En tout cas, ça nous préoccupe beaucoup parce que si l'eau n'est pas potable, ça va impacter négativement notre santé.
Une eau de fortune qui cache une véritable bombe à retardement sanitaire. Car consommer une telle eau expose directement la population a diverses maladies, dont celles d'origine hydrique. Les explications du docteur Amos Kikwatagild, spécialiste en santé publique de l'université de Kisangani.
Il y a par exemple les choléra, la fièvre typhoïde, il y a les gastro-entérites aiguës, il y a la dysenterie, il y a l'amibiase, ainsi de suite.
Face à ce péril, la société civile locale se tourne désormais vers les autorités politico-administratives pour exiger des sources d'eau potable aménagées. Ziko Kombozi interpelle les décideurs.
Nous demandons aux autorités politico-administratives de nous venir en aide. Nous nous souffrons, nous n'avons pas à boire au niveau du territoire de Banalia.
Pour l'heure, aucun projet n'est en cours, déclare Gilbert Akwamba, administrateur du territoire de Banalia. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Cap sur la province du Tanganyika où la ville de Kalemie accueille depuis ce mercredi 27 mai la 11e édition d'Expo Béton RDC, le plus grand salon professionnel dédié à la construction, aux infrastructures et aux mines. Jusqu'au 30 mai, décideurs gouvernementaux, experts et investisseurs se réunissent autour d'un thème stratégique, Kalemie, capitale de lithium et carrefour stratégique au cœur des corridors africains. L'enjeu est détaillé. connecter les provinces au grand réseau de transport du continent et attirer les investissements majeurs. Dans son allocution, le président du Sénat qui a représenté les chefs de l'État a d'ailleurs insisté sur la portée du thème de cette édition qu'il a qualifié de plus qu'évocateur. On écoute Jean-Michel Sama Lukonde dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Expo Béton ne ménage aucun effort pour interpeller les différents acteurs que nous sommes à nous engager dans une dynamique de développement durable et planifié des infrastructures dans le respect d'une urbanisation responsable et qui tient compte de l'environnement. Les académies sont à la croisée des chemins de cette dynamique, de leur développement au regard des diverses ressources minières, notamment le lithium, minéré stratégique du moment. Ganica, pour ne citer que cela, constitue des atouts formidables pour impulser la construction des infrastructures dans cette adéquation alliée avec l'exploitation des ressources citées ci-dessous. À cet égard, je formule le vœu que Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika et tout son gouvernement, en appui bien sûr du gouvernement central, tel que cela a été dit ici par Monsieur le ministre du Plan, puisse tirer le meilleur de cette édition.
Actualité internationale.
À Madagascar, l'Assemblée nationale a décidé d'élire ce 28 mai 2026 un nouveau juge à la Haute Cour constitutionnelle. Elle peut en effet en choisir deux parmi les neuf que compte cette institution clé chargée de trancher les contentieux électoraux et de proclamer les résultats des élections. Problème. Les deux juges directement visés par ces remplacements n'ont pas achevé leur mandat qui court jusqu'en 2028 et aucune vacance de siège n'a été constatée. Les intéressés dénoncent dans une lettre une procédure illégale et mettent en garde contre un risque de crise institutionnelle majeure.
L'invité.
Notre invité est Bienfait Fazili, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile en chefferie de Wamuzimu au Sud Kivu. Il revient sur les réactions contrastées au sein des communautés locales après l'arrêté du ministre des Mines suspendant pour 3 mois les activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda. Bienfait Fazili s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Fazili Mulonda, bonjour.
Bonjour monsieur les journalistes.
Depuis la prise de l'arrêté ministériel du 22 mai 2026 interdisant ou disons bien suspendant les activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda, est-ce que les travaux des creuseurs artisanaux se poursuivent?
Les activités minières depuis l'avènement de cet arrêté sont paralysées partout en territoire de Mwenga, mais il faut une évaluation sérieuse pour en savoir davantage. L'arrêté porta suspension pour 3 mois des activités minières dans les territoires de Mwenga et Shabunda a été accueilli avec joie par une partie de la population, mais aussi avec regret par les autres, notamment les entreprises minières à capitaux étrangers, ainsi que les coopératives minières, sans écarter les creusés artisanaux qui ne dépendent que de ces activités minières.
Qu'est-ce que vous redoutez en termes de retombées négatives sur la vie quotidienne de la population de ces deux entités où l'exploitation des minerais vient d'être suspendue?
Cet arrêté, partant de son opacité sur la vraie cible, affecte négativement les artisanaux et la vie de la population, comme il ne spécifie pas le vrai concerné de cette décision du ministre. Alors qu'en territoire de Mwenga et dans la ville de Kamituga, il n'y a pas de vie sans activité minière. Une fois cet arrêté resté général, va affecter négativement sur les conditions de la vie socio-économique et sécuritaire de la population du territoire de Mwenga, pourtant déjà vulnérable avec la guerre et les barrières payantes, la circulation de l'argent sera amoindrie.
Y a-t-il parmi ces conséquences celles qui sont déjà visibles aujourd'hui au sein de la communauté?
Dès que l'arrêté a été lu aux chaînes des radios locales ici, en territoire de Mwenga directement, le prix des produits de première nécessité a été revu à la hausse et les vols de produits agricoles commencent à être enregistrés dans les champs des paysans. C'est pourquoi nous pensons que la mesure prise par le ministre des Mines serait plausible si elle ciblerait les exploitants miniers, spécialement les sociétés à capitaux étrangers et les coopératives minières qui les couvrent ici. Malheureusement, l'arrêté de son Excellence, Monsieur le Ministre, n'a rien spécifié. Ce qui choque, c'est de voir même les artisanaux deviennent des victimes, pourtant ne dépendent que de ça comme activité quotidienne pour leur survie.
Est-ce que les raisons évoquées par le ministre des Mines en prenant cette décision vous paraissent plausibles?
Nous avons salué l'initiative au syndicat de consultation de la société civile en territoire de Mwenga, mais pour que l'inquiétude soit assouvie, il est impérieux que le ministre émette l'annexe de cet arrêté qui, à principe, doit écarter les artisanaux de ces entreprises étrangères. Nous voulons en plus voir que la commission qui sera sur terrain à Mwenga pour évaluer sur la question soit mixte sans écarter la société civile et que cette fois-ci les recommandations du rapport de mission qui sera produit soient mises en application au lieu de rester de l'œuvre morte dans des tiroirs à Kinshasa comme celle de la législation passée qui n'a fait que dilapider l'argent du gouvernement et se faire soudoyer par les miniers et avant la mission a été égal après la mission.
Et qu'est-ce que vous proposez au ministre qu'il faille faire pour que son inquiétude également soit assouvie et que la vie de la population ne soit pas aussi compromise?
Et le gouvernement, s'il n'est pas complice vraiment, sauve la mine du territoire de Mwenga. Ce n'est pas normal. Avec ces minéraux, pas d'eau ni courant, toujours en insécurité, zéro route.
Merci, monsieur.
C'était notre invité Bienfait Fazili qui s'entretenait avec Jean Kassami. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Jean-Désiré Kanyama et supervisé par Alain Irung Mouchinge et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.